Bonsoir monsieur.
Oui, bonsoir monsieur.
Nous sommes en train de faire une enquête sur le traitement préventif intermittent à la sulfate d'oxyde pyrimethamine. Vous êtes médecin, nous allons vous poser quelques questions pour comprendre un peu ce qui peut expliquer l'adhésion ou non des femmes enceintes à ce traitement.
D'accord, il n'y a pas de souci. Je vous écoute.
Merci. Nous allons vous poser les questions. 4 à 5 différents volets. Mais au début, nous allons vous demander déjà comment faites-vous le contrôle et le suivi des femmes enceintes dans l'administration du TPI dans les centres de santé?
D'accord, je vous remercie pour la question. Très souvent, quand nous recevons les femmes enceintes pour leur suivi de grossesse, généralement, la prévention par sulfate d'oxyde pyrimethamine se fait à partir de 20 semaines d'aménorrhée, ou déjà quand la femme constate les mouvements actifs fœtaux, genre les mouvements de son bébé dans le ventre. À partir de cet instant, nous entreprenons le traitement préventif intermittent avec sulfate d'oxyde pyrimethamine. Et elle doit prendre trois comprimés en prise unique devant le médecin. Et ce traitement est répété tous les mois jusqu'à l'accouchement, selon les dernières recommandations. Donc c'est un peu cela que nous suivons actuellement.
Merci, docteur. Dites-moi, quels sont les agents de santé qui dispensent actuellement le TPI?
En matière de dispensation de TPI, nous pouvons citer déjà les médecins. La plupart du temps, les femmes enceintes ont consulté chez les médecins généralistes dans notre contexte. Et autres intervenants, nous avons les gynéco-obstétriciens, les
Qui sont
femmes
également des médecins.
qui sont également des médecins, mais des spécialistes, donc c'est plus leur domaine.
D'accord.
Nous avons aussi les sages-femmes, c'est également leur domaine. Et en dehors de ça, à part ces personnes habilitées à le faire, bon, vous pouvez tomber sur des cas exceptionnels où c'est des infirmiers, infirmières qui gèrent le traitement ou bien le suivi de ces femmes enceintes qui leur dispensent cela.
D'accord. Merci, docteur. Selon vous, est-ce que les agents de santé que vous venez de citer qui dispensent le traitement préventif intermittent sont réellement formés pour l'administration du TPI?
Bon, de mon point de vue, je dirais, pour tous ceux qui font partie du domaine de la santé, ceux qui sont habilités plus pour dispenser ce traitement, je mettrai au premier rang d'abord les gynéco-obstétriciens, qui sont des médecins spécialistes, donc c'est leur domaine. Ensuite, les sages-femmes, également leur domaine, parce que la plupart du temps, les femmes enceintes suivent leur grossesse chez les femmes enceintes et chez les sages-femmes. Et en troisième position, je mettrai les médecins généralistes, puisque ayant appris la médecine, ils ont des connaissances qu'il faut pour entreprendre un traitement du genre. Les infirmiers, infirmières, je ne les mettrai pas vraiment à ce niveau. Je pense que les trois premières personnes dont j'ai cité les noms sont les plus habilitées à le faire.
Et donc vous pensez que eux, ils sont formés pour le faire. Mais s'ils sont formés pour le faire, qui les forme alors?
Lors de notre formation, c'est une formation que nous recevons sur des années, sur sept années. Donc, bon, si je prends les médecins, bien sûr, c'est une formation sur 7 années. Donc, au cours de notre formation, nous avons des cours, nous recevons des cours particuliers dans ce sens, précisément dans la matière de gynécologie obstétrique. Donc, c'est une formation reçue pendant notre cursus.
D'accord, merci docteur. Ma dernière question pour cette rubrique, c'est quelle est la fréquence de consultation prénatale faite par les femmes enceintes au cours de la grossesse?
La fréquence Elle varie beaucoup, je dirais même. Dans notre contexte surtout, où il y a le coût qui fait que très souvent les femmes enceintes n'aiment pas se faire suivre par les médecins parce que se disant que à chaque fois aller à l'hôpital là, c'est de l'argent, je dépense. Donc, quand elles n'ont pas l'argent, elles ne se font pas suivre correctement. Et ça varie de, je dirais, de 3 à plus consultations tout au long de la grossesse. Et ce qui est recommandé, c'est déjà dans les 3 à 4 consultations minimum pour une grossesse.
D'accord. Merci, docteur. Nous allons aborder à présent un autre volet, le volet du traitement préventif, même contre le paludisme. Mais dites-moi, comment administrez-vous la sulfate d'oxypyriméthamine pendant la grossesse et quel est selon vous l'intérêt d'un tel produit?
Okay. Si je reviens encore sur la façon de dispenser ce traitement, comme je l'ai dit au début, c'est un traitement qu'on entreprend à partir de 20 semaines d'aménorrhée ou à l'instant où la femme constate les mouvements actifs du bébé. On le prescrit la sulfadoxyprimétamine à payer. Ça existe sous plusieurs noms commerciaux. Et la femme enceinte doit prendre les 3 comprimés devant le médecin en prise unique. Et cette dose est répétée chaque mois jusqu'à l'accouchement. C'est un peu comme cela que
Ça se
ça se
donne.
passe.
Mais quel est selon vous l'intérêt de la prise de la sulfate d'oxypyriméthamine?
Alors, l'intérêt d'un tel traitement, comme le nom l'indique, c'est un traitement préventif. C'est pour prévenir les accès pallus chez la femme enceinte que nous connaissons responsable d'états pathologiques chez la femme enceinte. Le paludisme est susceptible d'induire une menace d'avortement chez une femme enceinte. Donc, dans ce cadre, entreprendre un tel traitement nous évite en quelque sorte d'arriver à ces extrémités.
D'accord. Merci, docteur. La sulfate d'oxypyriméthamine est-elle toujours disponible?
La question de la disponibilité, je pense que cela ne se pose pas vraiment. Puisque nous avons plusieurs formes sur le marché, je vais parler des spécialités. Bon, sans en citer trop, je peux déjà évoquer Malocine ou Fansida. Donc, quand on est en rupture pour une forme,
Il y a forcément une
on
autre
se
forme.
rabat sur une autre forme, donc le problème de disponibilité ne se pose pas toujours.
D'accord. Merci, docteur. Donc, vous venez donc ainsi de nous dire déjà que c'est disponible et pourquoi c'est souvent disponible. Merci. Alors, dites-moi, comment faites-vous l'information, l'éducation, la communication qu'on appelle souvent IEC sur le traitement préventif intermittent?
Okay. L'information, l'éducation et la communication sur le traitement préventif intermittent démarrent déjà lors de la toute première, en temps normal, devait déjà démarrer lors de la toute première consultation.
Oui.
Ou en recevant la femme enceinte, après sa première consultation, à la fin de sa consultation, on l'informe de la suite de son suivi. Et dans son suivi, on l'informe qu'à partir de tel moment, on va entreprendre un traitement du genre, le traitement préventif intermittent, pour prévenir les accès pallus chez elle et lui expliquer les bien fondés de ce traitement et pourquoi il faut le faire. Donc, c'est déjà lors de toute première consultation que l'information doit passer auprès de la femme enceinte. Et toutefois, lui rappeler ça lors des autres consultations.
D'accord. Est-ce que vous pensez que les relais communautaires sont également impliqués dans la mise en œuvre du traitement préventif intermittent?
Oui, nous pensons que normalement, oui, les relais communautaires devaient être impliqués, sachant la façon dont fonctionne notre système de santé, où à des endroits donnés, on n'a pas forcément un médecin qualifié, où à ces endroits, c'est plus les relais communautaires qui font qui apportent les soins et le nécessaire en matière de santé à la population. Donc, ils devaient être formés pour cela, pour que quand ils vont se retrouver devant des femmes enceintes dans leur localité, qu'ils puissent convenablement jouer leur rôle.
Merci. Donc, je pense que j'ai la réponse à ma question. Mais est-ce que, selon vous, les agents de santé sont suffisamment motivés pour prescrire réellement le traitement préventif intermittent?
Alors, à cette question, est-ce que je dirais que c'est une question de motivation? Pour moi, ça devait être un élément fondamental du suivi des femmes enceintes. Ce ne serait pas une question de motivation, mais plutôt quelque chose de nécessaire à faire
Une question de devoir.
quand vous suivez une femme enceinte. C'est une question de devoir.
Merci, docteur. Les femmes enceintes adhèrent-elles selon vous au traitement préventif intermittent?
Pour répondre à cette question, je dirais plutôt que c'est plus une question d'information, d'éducation et de communication. Parce que quand quelqu'un est bien informé de quelque chose, y adhérer ne pose pas vraiment problème. Et quand on lui explique vraiment les bien fondés de la chose, je ne pense pas qu'on aurait d'obstacle à une adhésion au traitement préventif intermittent.
Donc, selon vous, elles adhéreraient si l'information passait.
Oui, effectivement.
Mais dans ce cas précis, est-ce que dans votre cas, dans votre quotidien, quand vous prescrivez, est-ce que vous avez l'impression que les femmes enceintes adhèrent? Oui ou non?
Oui, je dirais oui. Puisque
D'accord.
quand on prescrit la première dose à la femme enceinte, et qu'elle prend, à la consultation qui suit, on vérifie si précédemment elle a vraiment prise et maintenant on prescrit la dose suivante. Donc c'est en ce moment-là que le contrôle se fait, si c'est prise ou pas.
D'accord. Selon vous, les femmes enceintes pratiquent-elles l'automédication?
Ah, le problème d'automédication. Le problème d'automédication, c'est un problème vraiment général. C'est à tous les niveaux. Et je ne pense pas que les femmes enceintes soient exclues. Parce que lors de la grossesse, nous avons de petits maux. Et pour ces petits maux, les femmes ont tendance à les prendre. Peut-être pour les maux de tête, à les prendre du paracétamol à la pharmacie. Ou pour autre chose, à les prendre un médicament, un traitement indiqué d'action rapide. Donc ça, ce n'est pas exclu.
D'accord. Donc même dans le recours au TPI, les femmes enceintes peuvent se lever et alors donc aller directement acheter la cisatricine pyrimétamine en pharmacie et donc le prendre sans que ce soit un médecin qui le leur prescrit.
À ce niveau, il faut nuancer. Il faut nuancer parce que la femme enceinte, dans la plupart des cas, et d'ailleurs même puisque ce n'est pas son métier, elle ne saurait vraiment à quel moment entreprendre un tel traitement. Donc c'est plus du devoir du médecin ou du médecin traitant de l'indiquer à la femme, Madame, à tel moment, on doit commencer un traitement préventif intermittent. Donc, en aucun cas, la femme ne serait allée elle-même de son propre gré à la pharmacie payer un tel médicament pour dire qu'elle est en train de faire un traitement préventif. Ce serait une aberration. et ce ne serait pas fait dans les normes.
Y a-t-il des pratiques sociales coutumières dans vos conditions de travail qui sont favorables ou non à la prise du traitement préventif intermittent?
Bon, des manières de faire coutumières, pas vraiment. C'est juste que le médecin doit l'intégrer dans sa prise en charge et savoir à tel moment de la grossesse, tel traitement doit être entrepris et à tel moment, tel autre traitement doit être entrepris. Donc, si c'est déjà défini ainsi dans la tête du médecin, je ne trouve pas qu'il y ait d'autres manières habituelles pour faire passer cela.
D'accord, docteur. Une dernière question. Quelles sont vos propositions pour l'amélioration de la prise en charge du paludisme par l'adhésion des femmes enceintes au traitement préventif intermittent?
Alors, propositions, je pense plus que mes propositions iraient dans le sens de l'information. Il faut qu'on informe davantage les populations, précisément les femmes enceintes, sur comment suivre la grossesse et quoi faire pendant la grossesse, à quel moment faire tel ou tel traitement. Et les informer que tout cela se fait sous la supervision d'un médecin traitant. Ce n'est pas quelque chose que le malade, pas le malade, mais bon, la femme enceinte elle-même peut se permettre de faire sans que cela ne vienne d'un professionnel de la santé. Donc, c'est ce que je pourrais proposer dans ce sens pour améliorer un peu l'adhésion ou le suivi du traitement préventif intermittent.
Merci, docteur. Nous allons clôturer cette interview par des questions sur votre identité. Nous allons vous demander votre nom, prénom, âge, la nationalité. Toutefois, nous vous rassurons déjà, comme vous le savez, que l'anonymat est garanti par rapport à l'utilisation de vos données.
D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je m'appelle Gérard Soussou. J'ai 27 ans. Je suis médecin généraliste. Voilà.
Nationalité ethnique?
Bon, je suis béninoise de nationalité, précisément Côte-à-Fond.
Merci, docteur. Nous venons ainsi de finir notre interview. Nous vous remercions pour votre attention et à la prochaine.
Merci bien, c'est moi qui vous remercie.